Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles et regarder dans la deuxième épître de Timothée, le chapitre 4, et je vais lire du verset 9 jusqu'au verset 25, ou 22 plutôt, et vous parler des amis et ennemis de l'Évangile, où l'Évangile est révélé dans le monde. Il y a des amis de cet Évangile et il y a aussi des ennemis, où il y a le blé qui est semé, il y aura toujours de l'ivraie. Où il y a des brebis, il y aura aussi des boucs. Telle est la volonté de Dieu. L'Évangile n'est pas pour tous les hommes, sans exception. Je sais que c'est le message populaire qui est prêché dans le monde, mais je dois dire que l'Évangile de la Bible, révélé dans les Saintes Écritures, est pour ceux que le Père lui-même a choisi depuis l'éternité et qu'il a donné à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans le monde et payé la rançon pour leur salut. Et c'est dans le temps, au moment précis, précisé par le Seigneur Jésus et son Esprit, que ceux-là sont amenés à Christ dans la foi et la repentance. Tel est le témoignage de l'apôtre Paul, tel est le témoignage de Timothée, et tel est le témoignage de ceux que l'apôtre Paul mentionne ici dans cette dernière épître qu'il écrit à Timothée vers la fin de sa vie. Lorsqu'il a écrit cette épître, selon ce que nous savons, c'était la dernière épître que l'Esprit de Dieu l'a dirigé d'écrire, et ensuite, non loin après ça, il a été décapité selon la loi romaine, étant lui-même un citoyen romain, mais il a donné sa vie à cause de l'Évangile. Et ceux qui l'ont condamné, c'était les mêmes qui ont condamné le Seigneur Jésus-Christ. C'était des hommes rebelles et dévoués à leur religion d'œuvre et de propre justice, comme nous avons partout dans le monde aujourd'hui. Le monde n'a pas changé. Les hommes sont tels qu'ils n'ont jamais été depuis la chute d'Adam, et des pécheurs perdus. Et sans l'intervention de Dieu par sa grâce dans la vie de ceux qu'il a choisis depuis l'éternité, donc ils vont vivre et mourir sous cette condamnation de Dieu, et cela pour l'éternité. Mais lorsque Paul écrit ici à Timothée, il mentionne certains de ceux qui faisaient partie de son réseau, de sa famille en Christ, mais aussi il mentionne certains qui l'ont abandonné, ceux qui étaient des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Et donc il dit à Timothée dans le verset 9 de 2 Timothée 4, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Ubulus, Pudent, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous te remercions de ta grâce qui nous enseigne à travers ta parole et pour ton esprit qui dirige nos cœurs vers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de bénir cette étude dans ta parole, à tous ceux que tu amènes à écouter, soit à l'heure ainsi ou bien plus tard, puisque c'est enregistré et posté sur l'Internet. Nous ne savons jamais la manière que tu utiliseras pour bénir ta parole, mais nous savons que cette parole ne revient jamais à toi sans accomplir le but pour lequel tu l'as envoyé. Et pour cela, nous te remercions. Que tu sois avec moi, que je puisse annoncer fidèlement cet évangile concernant ton Fils, le Saint Jésus-Christ, et que tu sois avec moi, afin que j'honore ton Fils en toutes choses. Et dans cela, nous te rendons grâce et honneur. Et prions pour ton aide en toutes choses. Et c'est dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, arrivé ici dans cette partie du chapitre 4, et je n'imagine pas que nous allons pouvoir finir d'exposer tous ces versets que je viens de lire, mais seulement je veux garder cette ligne, ce thème, et c'est ainsi. Qui sont les amis de l'Évangile et qui sont les ennemis? Paul a déjà parlé lui-même dans le verset 7 d'Intimothée 4 d'avoir combattu le bon combat et achevé la course et gardé la foi. Il n'est pas en train de se donner lui-même l'honneur, mais il donne cet honneur à Dieu et à sa grâce de l'avoir gardé et de l'avoir fortifié et préservé dans cette course de sa vie depuis que le Seigneur Jésus a été révélé en lui. Et tel est l'espoir de tout véritable enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu selon notre volonté, c'est pas la volonté de Dieu. Le salut vient de Dieu du début jusqu'à la fin. Et c'est Dieu le Père qui a choisi ceux qui doivent être sauvés, cela depuis l'éternité. C'est le Saint Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour accomplir cette justice exigée par Dieu pour le salut. Il fallait que ça soit une justice parfaite. Et c'est de ça que Paul a écrit à Timothée dans le verset 8, lorsqu'il dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée ». Cette couronne de justice n'est pas autre que le Seigneur Jésus-Christ. L'espoir de tout pécheur que Dieu sauve par sa grâce. Et notez, qui m'est réservé. Ce n'est pas mérité, mais réservé. Réservé dans le sens que c'est Dieu lui-même, dans sa grâce, qui a voulu ainsi, et donc il a non seulement choisi l'apôtre Paul, il a payé la dette par la mort du Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit l'a appelé, et maintenant il est gardé, il est préservé, jusqu'au jour où il verrait le Seigneur qui a payé sa rançon. Et tel est notre espoir. C'est écrit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Tel est l'espoir de tous ceux qui sont les rachetés du Seigneur Jésus-Christ, ceux que Dieu le Père a justifiés par son œuvre accomplie à la croix. C'est un espoir sûr, basé sur cette parole. Et il dit, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimé son premier avènement, mais qui aime aussi son avènement à venir. Vous voyez, c'est le Seigneur qu'ils attendent. Alors, tel était l'espoir qui gardait l'esprit de l'apôtre Paul lorsqu'il est maintenant en prison. Je ne sais pas si on peut savoir s'il a passé plus de temps en prison à cause de l'Évangile que libre en allant de lieu en lieu prêchant cet Évangile. Nous savons, selon le livre des Actes des Apôtres, que la première fois qu'il était emprisonné à Rome, cela n'a pas empêché l'apôtre de prêcher la parole. C'est écrit dans Actes 28 et le verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voilà ce qui est pour moi la nouvelle glorieuse de la Bible et de la souveraineté de Dieu, que rien ne peut empêcher sa parole d'être prêchée. Rien ne peut empêcher Christ d'accomplir l'œuvre qu'il est venu accomplir. Lui-même, il a dit qu'il bâtirait son église et les portails de l'enfer ne pouvaient pas l'empêcher de le faire. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une nouvelle qui me donne le repos. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas écouter l'Évangile. Il y en a qui sont contre l'Évangile, ennemis de l'Évangile. Paul a même écrit de cela dans Philippiens, chapitre 3, et le verset 18. Et c'était véritablement un fardeau pour lui, comme c'est pour nous aujourd'hui. Nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que le salut est en lui, et de voir des hommes prendre position contre Christ est contre son œuvre parce qu'il se confie dans leur propre justice. Ça pèse lourdement sur nous, mais nous ne pouvons pas convaincre les hommes de la vérité. Telle est la responsabilité du Saint-Esprit. Seulement, nous sommes appelés à l'annoncer. Et ici, dans Philippiens chapitre 3, le verset 18, il dit, car il en est plusieurs qui marchent Notez, un ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Pourquoi? Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, notez petit d, leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, ceux qui sont ennemis de la croix du Seigneur Jésus-Christ vivent selon la chair. Ils sont encore dans la perdition. Ils sont dans le péché et condamnés ainsi jusqu'à la mort. Parce que si Christ n'est pas mort pour eux, s'ils ne sont pas choisis de Dieu le Père, donc ils vont certainement, comme c'est écrit, leur fin sera la perdition. Ils ne peuvent jamais se repentir, jamais venir à Christ dans la foi. Alors voilà ce qui préoccupait les pensées de l'apôtre Paul ici vers la fin de sa vie. Et ce qui le réconfortait était ceux autour de lui qui faisaient partie de la famille de Christ. Et cela était son encouragement. C'est pourquoi il dit à Timothée dans le verset 9, « Viens au plus tôt vers moi. » Cela souligne le fait que ceux qui appartiennent au Seigneur trouvent leur bonheur et leur joie lorsqu'ils se rassemblent avec ceux qui appartiennent au Seigneur. Nous ne trouvons pas notre joie dans le monde, nous ne trouvons pas notre joie même dans la religion. Ce n'est pas simplement parce que il y a des assemblées qui se disent chrétiennes et peut-être ils vous invitent à venir et se joindre à eux, mais lorsque vous y entrez, vous trouvez que ce n'est que la religion simple. Christ n'y est pas. Et vous allez peut-être dire, mais comment est-ce que cela est possible? C'est parce que il y a beaucoup qui est fait au nom de Dieu, il y a beaucoup qui est fait au nom même de Jésus-Christ, mais ces assemblées et ces rassemblements sont dirigés par des hommes et l'attention est tirée sur les hommes. Le message qui est prêché est un message de l'homme et d'œuvre, mais non pas de Christ. Ce n'est pas difficile de reconnaître une assemblée qui est fondée uniquement sur Christ et Christ crucifié parce que le message, c'est Christ. La conduite de ceux qui fréquentent cette assemblée est basée sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ et non pas les lois ou bien les règlements des hommes. Mais tout cela, c'est pour notre encouragement. Oui, il y a des gens qui sont ennemis de la croix, mais Dieu a toujours ceux qui lui appartiennent, et comme pour l'apôtre Paul, il avait ceux-là qui étaient auprès de lui, même s'il était en prison, mais il continuait à faire l'œuvre de l'Évangile et annoncer l'Évangile là où le Seigneur les diriger. Ici, dans le verset 10, oui, il y a des découragements, il y a un certain démas que Paul dit l'a abandonné et il donne aussi la raison. Pour amour ou bien par amour pour le siècle présent, il y en a qui prétendent servir Christ et qui professent Christ de leur bouche. Mais si leur cœur n'est pas vraiment attaché à lui par la grâce de Dieu, donc, tôt ou tard, ils s'en alleront là où leur cœur les dirige. Là où est le cœur, de l'homme est son trésor. Et là où est le trésor que l'homme cherche, là est son cœur. Ça nous montre que le salut est une œuvre de la grâce de Dieu dans le cœur. Ce n'est pas simplement faire une profession de foi et se faire baptiser et puis maintenant nous sommes sauvés. Non, le salut est une œuvre de Dieu par sa grâce dans le cœur. Et là où Dieu a véritablement fait une œuvre de grâce, il faut dire que ce cœur-là restera attaché au Seigneur Jésus à jamais. Mais il faut dire qu'il y a une question, surtout au sujet de démons, qu'il faut considérer. Parce que nous savons que c'était un homme qui était pour Paul pendant un certain temps, un homme qui le servait et qui l'aidait beaucoup dans le ministère. Nous voyons son nom mentionné plusieurs fois dans les épîtres comme étant profitable pour l'apôtre Paul. Et donc maintenant, d'un coup, nous lisons ici que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et je sais qu'il y a beaucoup de commentateurs qui disent que voilà, en fait, ce n'était qu'un Judas, comme Christ avait Judas Iscariot, ici, c'était un Judas pour l'apôtre Paul. Et certainement, quand il est parti, on pouvait peut-être supposer qu'il est parti pour toujours. Mais quand on lit les Écritures, parfois nous trouvons des petits versets qui nous donnent l'espoir de savoir que peut-être Démas était en fin de compte un qui appartenait toujours au Seigneur, parce que dans la troisième épître de Jean, il faut dire que Paul est mort avant Jean. Jean était le dernier des apôtres à être tué pour le témoignage de Christ. Il faut dire que tous les disciples qui ont suivi le Saint Jésus-Christ sont morts des martyrs. Quand on lit l'histoire de l'Église, ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Telle était la volonté de Dieu. Mais Jean était le dernier de ces apôtres qui a été tué. Il est mort en tant que martyr, mais dans sa troisième épître, Jean dit ici, tous et la vérité elle-même rend un bon témoignage, noté, à Démétrius. Démétrius est un nom qui est synonyme à Démas. Donc voilà un certain Démas de qui ceux qui appartenaient au Seigneur rendaient un bon témoignage. Et il dit, nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Alors, voilà une raison peut-être de nous donner un peu d'espoir en ce qui concerne ce Démas, que lorsqu'il était à un moment donné, il a abandonné l'apôtre Paul. Néanmoins, même après la mort de Paul, nous voyons ce témoignage dans le livre, la troisième épître de Jean, qui semble signifier qu'en fin de compte, le Seigneur l'a ramené à lui-même. Ça me fait rappeler de la distinction entre l'apôtre Pierre et Judas. Quand on considère Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné le Seigneur, comme le reste des disciples. Il a renoncé le Seigneur devant les hommes, lorsque le Seigneur lui-même était dans la nuit en train d'être jugé devant le Sanhédrin, les dirigeants juifs, et il a renoncé au Seigneur là à côté du feu. Mais il appartenait toujours au Seigneur, parce que lorsque le Seigneur Jésus est sorti, la Bible dit que le Seigneur le regardait, et c'était un regard d'amour, et Pierre s'est repenti. Alors, on peut dire que Pierre a renoncé au Seigneur, Judas Iscariote a renoncé au Seigneur. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que Pierre appartenait au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais cessé d'intercéder pour lui. Et c'est le Seigneur Jésus qui gardait Pierre. Même dans ces moments où il renonçait le Seigneur Jésus. Pourtant, Judas Iscariote n'avait pas de sauveur, il n'avait pas de rançon. Il n'était pas un de ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Christ même a dit qu'il a choisi 12 et un d'entre eux était un fils de perdition. Alors, tout cela, nous ne faisons que découvrir avec le temps qui est pour le Seigneur et qui n'est pas. C'est possible qu'il y ait des gens comme Démas qui, pour un certain temps, semblent ne pas être au Seigneur. Ils abandonnent l'Évangile, mais puisque le Seigneur les a rachetés, il les garde et il les ramène à lui-même. Même l'apôtre Paul, qui savait que l'apôtre Paul était un des élus de Dieu? Personne. Lorsque le Seigneur a arrêté l'apôtre Paul, ou bien Saul de Tarse à ce moment-là, sur la route de Damas, il faut dire que les gens qui étaient des chrétiens à l'époque ne priaient pas pour son salut. Par contre, j'imagine que beaucoup priaient pour sa condamnation. Et imaginez qu'il était un homme réprouvé. Pourtant, même dans sa rébellion, il appartenait à Jésus-Christ. Et lui-même, il témoigne de cela dans Galates chapitre 1, lorsqu'il dit dans le verset 11, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Aucun de nous qui sommes en Christ n'est venu à Christ à cause de notre propre volonté ou la volonté de qui que ce soit, si ce n'est la volonté de Dieu. Et il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il dit, verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, tel il était dans son opposition à Christ et à sa croix. Et comment, verset 14, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif. Mais pourquoi? Pour les traditions de mes pères. Il y en a beaucoup comme ça. Ils ont un zèle pour les traditions de leurs pères dans la religion. Mais notez son témoignage, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Donc, même lorsqu'il suivait sa religion avec un zèle, mais sans la connaissance de Christ, néanmoins, il était toujours un objet de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est écrit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc peut-être qu'on ne peut pas reconnaître certains comme enfants de Dieu jusqu'au moment où Dieu lui-même, par sa grâce, daigne vouloir arrêter cela et révéler Christ en eux et maintenant les attirer à Christ. Alors, c'est pourquoi, revenant dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10, il ne faut pas imaginer que, voilà, Démas a abandonné Paul pour, par amour pour le siècle présent, donc c'était un réprouvé, non? Nous avons espoir de croire que, oui, même après le départ de l'apôtre Paul de ce monde, Dieu a fait son œuvre de grâce en ramenant encore un tel comme Démas. On a raison d'espérer toujours, même si nous-mêmes nous ne voyons pas le Seigneur dans nos vies ramener certains à lui. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ses enfants. Tout ce que je peux dire, c'est que si ils sont élus, et que le Seigneur Jésus-Christ a payé leurs dettes, donc il les ramènera en son temps. Je me souviens d'avoir lu une histoire d'une mère à l'époque qui priait beaucoup pour son fils, mais le fils était vraiment rebelle, et finalement il a abandonné la mère et il est parti à l'aventure. Et sa mère, entre-temps, est morte. Et c'était à l'époque où les nouvelles ne passaient pas rapidement. Donc, le fils ne s'est pas rendu compte de la mort de sa mère que plus tard dans sa vie, lorsqu'il était déjà vieux. Mais le témoignage est que ce fils, qui était si rebelle, face à sa mère et même à ses instructions que la mère lui donnait au sujet de Christ et de l'Évangile, elle est morte sans savoir si réellement son fils était un des élus ou non. Mais le témoignage rendu par le fils, c'est lorsqu'il a passé sa vie, vers la fin de sa vie, maintenant, le Seigneur a ramené à son esprit des versets de la Bible que sa mère lisait pour lui, en lui montrant la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ et l'importance de sa mort pour des pécheurs tels qu'il était. Et c'est le Seigneur, à ce moment-là, qui a fait en sorte que cette parole maintenant de la Bible, de la parole de Dieu, est rentrée dans son esprit et son cœur, sans qu'un autre homme soit à côté. Des années ont passé, mais c'est au moment voulu par Dieu qu'il a fait que cette parole maintenant est rentrée dans son cœur. Et il était converti à Christ. Et c'est là qu'il a commencé maintenant à vouloir rentrer, ne sachant pas ce qui s'est passé avec sa mère, et rentrer, il a découvert qu'elle était déjà morte il y a bien d'années. Et pour lui, c'était un moment triste, parce qu'il savait dans quelles conditions il a quitté sa mère, dans sa rébellion. Mais le Seigneur, tout de même, a agi dans sa grâce sans que la mère ne sache qu'il était un de ceux-là que Dieu allait sauver. Et je dois ajouter, même le monsieur lui-même, le fils, ne savait pas. Si on lui demandait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il pensait de Christ, il serait comme Saul de Tarse, et il était l'ennemi de Christ. Pourtant, Christ avait déjà payé sa dette. Alors, c'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il était mis à part dès le sein de sa mère, mais qui a été appelé par sa grâce. Oh, quelle joie lorsqu'on est appelé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, c'est de telles personnes ici que Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, il apprécie. Peut-être au moment où Démas l'a abandonné, il ne pouvait pas savoir si Démas allait revenir un jour. Mais nous savons que parfois, il y a des disputes aussi, il y a des séparations entre nous, les hommes, et c'est seulement dans le temps maintenant que Dieu amène une réconciliation. Dans le verset 11, lorsqu'il dit « Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Ça, c'est le Jean-Marc que nous voyons dans Actes chapitre 15 et le verset 37 qui a fait une séparation entre Paul et Barnabas parce que Paul ne voulait plus amener Jean-Marc, ici appelé Marc, mais ici dans Actes 15, il est appelé Jean surnommé Marc. Et il y a eu une différence entre Barnabas et Paul au sujet de Jean-Marc, où même il y a eu une séparation, où Barnabas prenait Marc avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre, dans le verset 39, et verset 40, Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors, il faut dire que le Seigneur a amené cette séparation entre les deux, en quelque sorte pour doubler la direction, si vous voulez, de l'Évangile, où un allait dans un sens et l'autre dans l'autre. Mais là où il y a deux personnes, mais même si peut-être ils ne s'entendent pas au départ, au début, s'ils sont vraiment du Seigneur, le Seigneur bénira en sorte que les deux soient un. Parce que c'est ce que le Saint Jésus-Christ lui-même a prié dans le jardin, que tous ceux que le Père lui a donné et pour qui il est mort soit un comme lui, il est un avec son Père. La seule façon que cela est possible, c'est par l'Esprit de la grâce de Dieu qui unit ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi nous lisons ici, en fin de compte, quelles que soient les disputes qui ont séparé Paul et Barnabas, et même Jean-Marc, au départ, en fin de compte, Paul dit ici, « Amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Je remercie le Seigneur du fait que ceux qui lui appartiennent, quelles que soient les différences peut-être, parfois c'est des différences de race. Il faut dire qu'au départ, Pierre a eu des difficultés pour aller dans la maison de Corneille parce que les Juifs n'avaient pas l'habitude de fraterniser avec les gentils. Mais à cause de l'Esprit de la grâce de Dieu, Dieu les a unis. Et on peut voir ça dans plusieurs témoignages. Alors, ce qui est sûr, c'est que Dieu fait son œuvre de grâce et l'applique là où il veut. Alors, je vais m'arrêter là pour cette semaine parce que la semaine prochaine, je voudrais reprendre certains de ces noms que nous lisons ici. Peut-être qu'ils ne sont pas des gens qui sont nécessairement bien connus, mais pourtant, à l'époque, étaient utiles. pour l'avancement de l'Évangile. Nous savons l'épître de Paul aux Galates et nous savons comment le Seigneur, lorsqu'il était encore libre, allait dans cette région pour prêcher l'Évangile. Mais peut-être ce que nous ne sommes pas, nous ne savons pas, c'est qu'il y avait un certain pressant que Dieu a suscité pour retourner dans cette région. C'est écrit « Crescent est allé en Galatie ». Ce n'est pas dans le même sens que Démas qui m'a abandonné, mais quoi qu'il était auprès de Paul pour un certain temps, et je dois dire comme Paul était pour lui comme un mentor, je ne dis pas menteur, mais mentor, quelqu'un qui l'a enseigné l'Évangile, et maintenant c'était sa mission de retourner en Galatie, et comme il dit Tite en Dalmatie, de continuer de prêcher cette œuvre de l'Évangile. Dieu a toujours ses instruments qu'il utilise pour annoncer l'Évangile, ses ministres. Même s'ils ne sont pas bien connus de nous, je sais que Tite est peut-être beaucoup plus connu que Crescent, mais en ce qui concerne l'œuvre de l'Évangile, aucune différence. Et voilà la joie du message de l'Évangile, c'est qu'en Christ, nous sommes un. Il n'y a pas un qui est élevé au-dessus de l'autre, mais un en Christ est utile et préparé pour toute bonne œuvre, comme Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Il mentionne Luc. Luc, c'était un médecin qui restait auprès de Paul, et nous savons qu'il a écrit l'Évangile selon Luc. Il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Et puis Marc, quoi qu'il y a eu une séparation au départ au sujet de Jean-Marc, non seulement il était utile pour l'apôtre Paul, pour le ministère vers la fin de sa vie, mais aussi le Seigneur s'est servi de ce même Marc pour écrire l'Évangile selon Marc. Et par là, nous voyons de quelle manière Dieu, dans sa grâce, a enseigné celui qui s'appelle Marc, et à travers son témoignage, nous bénéficions aujourd'hui. Donc nous faisons partie de ce réseau de pécheurs choisis par Dieu le Père depuis l'éternité, pour qui Christ est mort, mais aussi qui, avec le temps, Christ se révèle en eux. Et je sais, Christ lui-même a dit ça, qu'il y avait d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie juive, si vous voulez, mais le Seigneur a dit qu'il devait aussi les amener. Il s'agit des pécheurs de partout le monde que Christ doit amener puisqu'il est mort pour eux. Alors telle est notre joie lorsque nous voyons le Seigneur bénit cet évangile en attirant les brebis perdues à lui. Alors que le Seigneur nous bénisse en écoutant ses paroles et qu'il nous garde par sa grâce.